Lundi 16 octobre, l'info sur RMC.
Il est 8h, Chloé Cambrelin est là pour les dernières informations. Chloé, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Les maires de banlieue en appellent à Emmanuel Macron, état généraux de la politique de la ville, au lendemain d'une interview au cours de laquelle le chef de l'État assurait qu'il était aussi le président de la France où les choses vont mal. Des Français travailleurs détachés en France, enquête RMC, alors que le Parlement européen se penche sur la fameuse directive accusée de favoriser le dumping social. Et puis trois mots transformés en hashtag viral, balance ton porc, ou quand des milliers de femmes témoignent sur Twitter dans la foulée du scandale Weinstein. RMC 8h01, bienvenue. Mais d'abord, on va au collège. Le ministre de l'Éducation est dans une demi-heure sur RMC et BFM TV. Jean-Michel Blanquer, qui, vous le savez, réforme beaucoup et compte encore beaucoup réformer. Il est notamment déterminé à interdire le téléphone portable au collège, y compris dans la cour de récré. Emmanuel Macron s'y était engagé. C'est faisable, a dit le ministre. Apparemment, oui. En tout cas, au collège Littré de Bourges, dans le Cher, où s'est rendue Charlotte Perronnet.
Depuis la rentrée, il y a de nouveau du bruit dans la cour. Football, discussion, rigolade, une ambiance retrouvée depuis que le téléphone portable n'est plus autorisé. Odile Després, la principale adjointe, observe les élèves avec fierté.
C'est métamorphosant, ils échangent, ils se rencontrent, ils se sourient, tout simplement, sans écran interposé.
Les élèves sont également plus concentrés et moins fatigués, selon le proviseur Jean-Claude Chevalier.
Depuis qu'ils partaient de la maison, les élèves étaient déjà sur leur jeu et ils arrivent en classe. Le cerveau saturé.
Et à la surprise de tous, cette déconnexion ne déplaît pas aux élèves, même les plus connectés, comme Pauline.
Dès que je sortais des cours, je prenais mon téléphone, enfin, c'était un réflexe. Maintenant, ça me fatigue moins les yeux, les écrans, je suis plus perturbée comme avant.
Et cela évite des jalousies, comme l'explique Nathan.
Ils étaient un peu tous dessus à jouer aux nouveaux jeux. Moi qui n'en avais pas, je me retrouvais un peu tout seul. Et...
un succès unanime, donc il faut toutefois nuancer.
J'en connais certains dans les toilettes qui, 5 minutes, répondent à 2-3 messages.
Quelques ajustements sont donc peut-être à prévoir d'ici la généralisation de la mesure, un souhait du ministre de l'Éducation.
Ça n'est pas le gouvernement qui les organise, mais une association. Les états généraux de la politique de la ville se tiennent aujourd'hui à Grigny, en Essonne. Quelques 300 maires et associatifs réunis pour dire leurs besoins et surtout ceux de leur population. 5,5 millions de Français vivent en banlieue. Ils ont besoin que l'on s'occupe d'eux, explique Stéphane Gatignon, maire de Sevran, en Seine-Saint-Denis.
Il faut que la nation prenne conscience de ce qui se passe aujourd'hui, des ruptures qui existent en bas. On a des revendications, y compris sur les finances locales, parce qu'il faut que les communes, on arrive justement, ce que vous dites, à joindre les deux bouts, à faire le service minimum. Mais aussi, on a une demande particulière qui est de dire au gouvernement, soutenez les gros projets d'innovation qu'il y a dans nos territoires, parce que c'est là que ça se passe. Il y a 54 000 contrats aidés aujourd'hui qui sont dans les zones prioritaires. Et si ça s'arrête, qu'est-ce qui va se passer derrière? Voilà, on pense qu'il faut que ce soit au cœur de l'action gouvernementale. On est les territoires cosmopolites, les plus jeunes, là où il y a l'avenir quand même. Donc ça, il faut travailler dessus.
Le maire de Sevran, Stéphane Gatignon, avec Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Hier soir, Emmanuel Macron a promis qu'il recevrait les maires de banlieue. C'était sur TF1, première interview télé du chef de l'État depuis son arrivée à l'Élysée. Explication sur la forme et sur le fond. Oui, il continuera à dire ce qu'il croit vrai. Et non, il n'est pas le président des riches. Emmanuel Macron a beaucoup insisté sur ce point, en expliquant notamment longuement sa réforme de l'ISF, Elisa Bertholomé.
Oui, Emmanuel Macron veut le transformer en un impôt sur la fortune immobilière. Parce que selon le chef de l'État, l'ISF est une grande hypocrisie française, un impôt peu efficace. En le supprimant, il espère que cela favorisera l'investissement dans l'économie. Problème, cette mesure le fait fortement pencher vers la droite, d'où ses critiques sur Emmanuel Macron, président des riches, qui l'élude. Ce sont les passions tristes de la France. Je ne crois pas à la jalousie française qui consiste à dire « il y a des riches, taxons-les, nous nous porterons mieux ». Le chef de l'État veut des gens qui réussissent, ces fameux premiers de cordée. Il ne faut pas leur jeter des cailloux, explique-t-il, sinon c'est toute la cordée qui dégringole. Autre réforme, autre critique, la baisse des APL. À ceux qui s'insurgeaient cet été, le chef de l'État répond, c'était une mesure d'urgence, une décision de responsabilité difficile. D'ailleurs, les APL continueront de baisser, mais pour compenser, le gouvernement va demander un effort aux bailleurs sociaux sur le prix des loyers. Bref, Emmanuel Macron assume toutes les décisions prises jusqu'à présent. Il prévient, je suis là pour transformer la France et je continuerai au même rythme.
Le chef de l'État qui a aussi précisé hier que la lutte contre le harcèlement de rue serait l'une des priorités de la future police de sécurité du quotidien. Sur ces questions, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État, annonce un projet de loi pour l'an prochain. Il s'agira notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs et d'instaurer un non-consentement présumé des enfants en matière de relations sexuelles. Des annonces qui interviennent en plein scandale Harvey Weinstein, affaire qui a provoqué un torrent de témoignages sur Twitter durant tout le week-end. Sous le hashtag balance ton porc, des milliers de femmes rapportent les remarques ou les faits de harcèlement dont elles ont été victimes au travail. Cécile Coste a rencontré une jeune femme que cet effet de groupe a aidé à se livrer.
Été 2014, Camille, 19 ans, fait un stage dans une banque. Très vite, un de ses collègues, Alain, la cinquantaine, tient des propos déplacés.
Est-ce que t'as déjà vu le loup? Enfin, t'as couché avec combien de mecs? Des trucs dans le genre. Pour essayer de m'intégrer un petit peu, je me forçais à rire.
Quelques jours plus tard, la jeune femme voit son collègue feuilleter, hilar, un calendrier pornographique. Sur l'image, une femme nue, les jambes écartées.
Alain a mis le calendrier sous mon nez. M'a forcé à regarder, en fait. Et m'a dit, tu vois, Camille... À la fin du mois, pour toucher ton salaire, il va falloir que tu fasses la même chose.
Profondément choquée, la jeune femme ne prévient pas sa hiérarchie. Si elle a décidé de parler 3 ans après, c'est grâce au témoignage publié sur Twitter par d'autres victimes. Un phénomène positif selon Muriel Salmona, présidente de l'association Mémoire Traumatique.
C'est un changement dans le regard et dans une société qui était colonisée par le discours des agresseurs. S'il y a une reconnaissance et s'il y a une diminution du seuil de tolérance par rapport à ces violences, ça c'est génial.
95% des femmes qui dénoncent sans harcèlement sexuel en entreprise perdraient leur emploi, selon l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail.
RMC 8h07, la question des travailleurs détachés à la une européenne. La commission emploi du Parlement européen se prononce aujourd'hui sur le projet de réforme de ce système allègrement détourné. Le Conseil européen se prononcera, lui, le 23 octobre. Le travail détaché permet à une entreprise européenne de faire travailler un salarié dans un autre pays de l'Union, tout en payant les cotisations sociales dans le pays d'origine. Parmi les abus auxquels la réforme veut mettre un terme, il y a le cas de ces travailleurs détachés dans leur propre pays. 20 000 personnes en France, selon les chiffres officiels. Comment ça marche? C'est le choix de la rédaction d'RMC et une enquête de Nicolas Raupert.
En plein travail sur un chantier de Moselle, Daniel, un plaquiste français, est en fait détaché par une société d'intérim luxembourgeoise. Une situation répandue dans cette région frontalière qui lui offre une meilleure rémunération.
Niveau salaire, je gagne 25% à peu près. Oui. En plus, il n'y a rien d'illégal dans ce qu'on fait. Pour moi, ça me va très bien. J'ai tous les avantages du Luxembourg sans les inconvénients.
La pratique est-elle si courante? À Esch-sur-Alzette, la deuxième plus grande ville du Luxembourg, 34 agences d'intérim ont pignon sur rue. Nous avons enregistré en micro caché notre discussion dans l'une d'elles.
Bonjour, je suis français et je voulais savoir s'il était possible d'être détaché via une société d'intérim luxembourgeoise en France.
Le détachement, oui, c'est possible à partir d'une société au Luxembourg, mais il faut d'abord avoir travaillé pour la même société 30 jours consécutifs au Luxembourg.
Aucun problème, nous confirme-t-on. C'est pourtant scandaleux, car les cotisations sociales échappent à l'État français, s'insurge Didier Roche. Le président de la Fédération du bâtiment en Moselle dénonce une concurrence déloyale.
Pour nous, c'est inacceptable. Ce sont des jeunes qu'on a formés, qu'on a aidés, à qui on a appris le métier et qui nous quittent parce que le SMIG au Luxembourg, il est à 16 € de l'heure, parce que les charges sont divisées par deux et nous, on ne peut pas s'aligner.
Plusieurs amendements ont été déposés ces dernières années à l'Assemblée nationale pour interdire cette pratique, sans résultat.
Le bilan n'en finit plus de s'alourdir. En Somalie, au moins 276 personnes tuées, 300 blessées dans un attentat au camion piégé dans le centre de Mogadiscio samedi. C'est l'attaque la plus meurtrière de l'histoire de ce pays qui vit au rythme des violences depuis des années. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il est attribué aux islamistes Chebab affiliés à Al-Qaïda. En Syrie, on annonce depuis ce week-end la chute prochaine de Raqqa. La capitale autoproclamée de Daesh aurait été évacuée de ses habitants. Se pose la question de l'avenir des djihadistes étrangers, notamment français. S'ils sont tués, tant mieux, a dit hier la ministre des Armées Florence Parly. Mais sait-on aujourd'hui où ils sont, Céline Martelet?
La majorité de ces djihadistes français ont fui Raqqa déjà il y a plusieurs semaines pour aller à l'est, près de l'Irak. Ils ont rejoint là-bas Mayadin, où beaucoup d'Occidentaux vivaient, mais l'État islamique est en train de perdre également cette ville. Alors les femmes, les enfants étrangers et donc français ont été évacués par l'organisation vers la frontière irako-syrienne. Selon nos informations, certaines familles françaises auraient passé cette frontière pour s'installer en Irak, dans la dernière zone que contrôle encore l'État islamique. Les hommes, eux, combattent, la coalition n'accepte pas leur reddition, mais ces djihadistes ont également reçu l'ordre de ne pas se rendre. Selon le ministère de l'Intérieur, au moins un djihadiste français est tué chaque semaine depuis le début de l'année dans des combats. Au total, près de 300 sont morts sur place.
6 buts, mais pas de vainqueur. Hier soir, 3 partout entre Strasbourg et Marseille en clôture de la 9e journée de Ligue 1. L'OM est 4e ce matin, derrière le PSG Monaco et Saint-Etienne. Et puis, vous reprendrez bien un peu d'été indien. Le beau temps toujours de mise, cela dit ce lundi, après un superbe week-end. Le plus gros problème de Marie ce matin, c'est de savoir comment s'habiller.
J'ai empaqueté toutes mes affaires d'été dans des cartons, donc je ne sais plus comment m'habiller parce que le temps il est tellement changeant que voilà, je vais être obligée de m'adapter un petit peu. Le matin il fait froid, l'après-midi il fait chaud, on repart du travail il fait froid. Je vais essayer de trouver quelque chose un peu estival et en même temps de correct.
Voilà, c'est trop dur la vie, n'empêche qu'il faut en profiter car mercredi ce sera vraiment fini.
8h10, merci Chloé, 8h10. Allez, 8h35, 9h tout à l'heure, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Nous serons dans le concret avec lui, les mesures déjà prises, les mesures qu'il va prendre. Suivez bien ce rendez-vous et je vais lui parler notamment du salaire des enseignants. 8h11, Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive, va nous parler du sondage RMC Atlantico sur l'intervention d'Emmanuel Macron. A-t-il convaincu? Réponse dans une minute, 8h11.
RMC, Bourdin Direct.
8h13 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion de l'Institut Aris Interactive.
Vous avez interrogé les Français après l'intervention d'Emmanuel Macron. Dites-moi, Jean-Daniel Lévy, est-ce que les Français ont été convaincus?
D'une manière générale, tous ceux qui ont entendu parler, soit en regardant la totalité de l'émission, une partie de l'émission, ou en écoutant les commentaires qui ont été donnés hier, n'ont pas été convaincus. Et on a 61% des Français qui n'ont pas été convaincus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une ambiance médiatique, et puis il y a ceux qui ont regardé véritablement l'émission. Ceux qui ont regardé l'émission, la totalité de l'émission, du début à la fin, sont convaincus à hauteur de 54%.
Oui, mais ce sont des admirateurs d'Emmanuel Macron.
C'est pas que des admirateurs d'Emmanuel
pas
Macron.
Que des admirateurs,
mais c'est vrai qu'en général, ceux qui regardent la totalité de l'émission, ce sont plutôt des personnes ont une sensibilité à l'égard de l'émetteur politique, en l'espèce le président de la République. Et on a près d'une personne sur deux qui a au moins regardé une partie de l'interview qui a duré une heure, qui se déclare convaincu par le propos du président.
Mais pourquoi 61% des Français n'ont-ils pas été convaincus?
Ils ont déjà eu une difficulté à pouvoir croire dans l'efficacité de l'action en matière sociale. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent au président de la République la posture au niveau international, et ils considèrent que ce qui a été fait, notamment par rapport à Barack Obama, etc., par rapport à Donald Trump, pardon, a été plutôt dans le bon sens. Ils sont assez convaincus par la politique en matière économique, et en revanche, ils émettent des doutes concernant les conséquences sociales pour les individus et pour eux-mêmes en tant que salariés.
Oui, le projet d'Emmanuel Macron est à la fois de gauche et de droite, estime 56% des Français. 38% pensent que le projet du chef de l'État correspond à une politique de droite. Et seulement 6% à une politique de gauche.
Oui, c'était une des questions qui se posait. C'est-à-dire, est-ce que le président aujourd'hui mène une politique qui est une politique, on l'entend, en faveur des riches, ou est-ce qu'il mène une politique qui est une politique, notamment parce que d'un point de vue elle économique, elle est portée par des ministres qui sont des ministres à droite sur l'échiquier politique. Est-ce que cela teinte l'ensemble de la politique? Les Français disent pas vraiment. Ils reconnaissent à Emmanuel Macron sa capacité à pouvoir prendre des idées à droite, prendre des idées à gauche. Mais malgré tout, lorsqu'ils sont obligés de faire un choix, ou lorsqu'ils se positionnent, ils disent nettement plus que la politique tend en faveur d'une politique de droite. Et ce qui est intéressant, c'est que même les électeurs de droite ont le sentiment que cette politique va plutôt dans le sens globalement de ce qui a été prôné depuis quelques mois ou depuis quelques années par les leaders de la droite ou les leaders.
Donc ça n'a pas été réussi.
Donc c'est pas. Enfin, on peut pas dire que aujourd'hui Emmanuel Macron est entièrement convaincu.
Est-ce qu'il a réussi son exercice hier soir?
Si l'idée c'est de pouvoir convaincre les Français qui ont regardé ou qui n'ont pas regardé l'émission, l'exercice n'a pas été entièrement réussi de la part du président de la République.
Merci Jean-Daniel Lévy. 8h15, vous êtes sur RMC. Merci. On dit les choses clairement. Il n'a pas réussi hier soir son exercice. Les raisons, eh bien chacun les trouvera. Nous sommes dans le Finistère, Géraldine Demoy.
À Lourdes-Vez, où il a fait très beau hier, mais la mer est agitée. C'est dû au passage de l'ex-ouragan Ophélia, alors bien au large de nos côtes. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel pour chez nous. Mais on va avoir une forte houle et pas mal de vent, en tout cas sur la Bretagne. Ce sera le cas aujourd'hui toute la journée, avec des rafales jusqu'à 70 km/h pour ce matin. Bon, sinon, on a vraiment du soleil sur tout le pays, quelques nuages bas vers la Méditerranée. Puis donc ce vent qui se renforcera encore un petit peu cet après-midi, qui pourra atteindre 80 km/h sur la pointe bretonne. Les températures vont rester exceptionnelles encore aujourd'hui, largement au-dessus des normales de saison, jusqu'à 29 degrés à Biarritz, à Clermont-Ferrand cet après-midi, 28 à Bordeaux, 27 à Lyon, 26 à Lille ou Paris, 23 à Marseille, et un minimum de 20 degrés pour Brest.
Les trois titres de l'actualité. Chloé Cambrelin, Chloé.
Le bilan s'alourdit encore en Somalie. Au moins 276 personnes tuées, 300 blessées dans un attentat au camion piégé samedi. Attaque qui n'a pas été revendiquée, mais qui est attribuée aux islamistes Shebab. Un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles l'an prochain. La secrétaire d'État Marlène Schiappa précise qu'il s'agira notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs et d'instaurer un non-consentement présumé des enfants en matière de relations sexuelles. Et puis, je fais ce que j'ai dit, Emmanuel Macron a défendu son style et ses réformes hier soir lors de sa première interview télé depuis son arrivée à l'Élysée. Le chef de l'État a notamment longuement expliqué sa réforme de l'ISF transformée en impôt sur la fortune immobilière.
À suivre dans Bourdin Direct. Vous avez manqué l'interview d'Emmanuel Macron hier soir, pas bien grave, c'est même mieux, pour suivre la fine analyse de la soirée par Président Magnin. C'est à suivre sur RMC.
RMC Bourdin Direct. Président Magnin.
Président Magnin, vous allez bien, Président?
Très bien, Jean-Jacques.
Coup de, depuis tout à l'heure. Coup bas, coup fourré du monde politique. Nous revenons sur l'interview d'Emmanuel Macron hier soir sur TF1.
Et d'abord, où avait lieu cette interview? À l'Élysée, oui, mais Anne-Claire Coudray nous a apporté une précision importante.
Nous sommes précisément dans votre bureau de travail.
Voilà, c'est le bureau de travail, à ne pas confondre avec le bureau de loisirs ou le bureau de sieste de l'Élysée. Pour ce qui est de la parole présidentielle, chacune et chacun a pu noter que le président répétait un peu certaines formules.
Nous serons les uns et les autres, chacune et chacun trouve sa place, les uns et les autres, chacune et chacun, celles et ceux, chacune et chacun, celles et ceux, d'aider celles et ceux, pour aider celles et ceux, à chacune et chacun, que pour celles et ceux, quand certaines ou certains. Ce sont celles et ceux qui sont toutes celles et ceux, qui, chacune et chacun. Chacune et chacun, non, chacune et chacun a sa personnalité.
Voilà, vous connaissez l'écriture inclusive, c'est la parole inclusive du président de la République.
Tiens, bah oui.
Alors bon, entre deux, celles et ceux, Emmanuel Macron avait tout de même préparé une petite formule pour répondre à l'accusation de président des riches.
Parce que je suis le président de tous les Français, que je suis le président de toutes et tous. Moi, je suis le président de tous les Français.
Voilà, le président de tous les Français, il tient à le souligner, sans oublier de placer quelques expressions imagées dont il a le secret.
Parfois, quand on s'approche de la vérité, on s'y brûle. Je ne crois pas au ruissellement pour ma part, mais je crois à la cordée. Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Moi, je vous fiche mon billet, comme on dit, trivialement. Ce qui est croquignolesque dans le monde où nous vivons.
Voilà, croquignolesque. Mais oui, c'est peut-être le mot de la soirée qui rime avec le abracadabrantesque de Jacques Chirac.
D'où vient croquignolesque, mon cher?
De croquignol.
De croquignol.
Ben oui.
Qui était croquignol?
J'ai tenté une impro, mais c'est pas passé.
Les pieds nickelés.
Oui, les pieds nickelés, tout ça.
Ben, je n'en ai jamais lu ça.
Ouais.
Et
j'avais 50% du
côté,
quand même.
Et du côté des journalistes.
Ah bon, on va avoir une pensée pour Anne-Claire Coudray, qui a passé pas mal de temps hier soir à tenter de poser des questions.
Vous avez parlé
et j'essaie surtout d'agir, mais je pense que ce qui est important par rapport à ce que vous évoquiez, sur plus de la moitié ont des très grandes difficultés.
Pardon, monsieur le président.
Donc, mais non, mais c'est très important de vous le dire, parce que c'est ce chemin qu'il faut faire.
Justement, nous allons aborder dans le détail
ces réconcilier. Je vais juste terminer pour, et donc vous le voyez,
il faut vraiment qu'on aborde la question du chômage,
cette transformation,
vous y arrivez,
elle ne tient, elle ne peut se faire que lorsqu'on a. Et ce seront les 20% les plus riches.
On va continuer
quand ils n'en gagnent pas à travers la réforme de l'ISF.
On va continuer
donc,
à parler
de pouvoir d'achat
pour une autre catégorie.
Je crois vraiment que c'est une mesure, l'ensemble, parce qu'il faut toujours prendre les choses dans l'ensemble.
Un peu de mal à couper le président, hein. Hier soir, pour Anne-Claire Coudray.
Ça, c'est croquignolesque.
Oui, ça, c'était croquignolesque. On retiendra aussi ce petit moment. Tiens, on est entre riches autour de la table.
Moi, je vous regarde, je ne regarde pas des riches. Statistiquement, vous l'êtes au regard des statistiques françaises. Bon,
comme vous?
Oui. Et alors? Vous voyez bien que tout de suite, ça crée quelque chose qui est dans le vocabulaire. Ce sont ce que j'appelle les passions tristes de la France.
Et ben, c'est ce que j'appellerais un petit malaise, hein, sur le plateau à ce moment-là.
Peu de surprise dans les réactions à cette interview.
Oui, c'était presque caricatural hier soir sur les plateaux. Alors, au sein du gouvernement et de la majorité, on est particulièrement convaincus.
En tout cas, ce soir, les Français avaient attendu cette interview. Certains l'avaient même demandé. Et si on regarde ce qui s'est passé, eh ben, on voit qu'elle a été essentielle.
Le chef de l'État a montré avec conviction et détermination combien il entendait
transformer le pays.
Parce qu'il a une propension à dire la vérité. Et c'est ce qu'il a rappelé d'ailleurs dans cette interview.
Moi, j'ai entendu beaucoup de cohérence ce soir.
Moi, j'ai trouvé d'abord que le président était très pédagogue.
Emmanuel Macron redonne aux Français la fierté d'être français.
Voilà, fierté d'être français, cohérent, pédagogue, vérité. Soit tout l'inverse de ce qu'en a pensé l'opposition.
Il fait la démonstration qu'il est le président des riches.
Oh, il n'est pas le président des riches, il est le président des super riches.
Beaucoup d'autosatisfaction et peu d'empathie vis-à-vis des Français.
Très arrogant, presque méprisant.
Il se payait de mots et de formules assez vagues et assez creuses. Enfin, c'était très macronien ce soir.
Voilà, ce soir, Emmanuel Macron n'a rien annoncé. J'ai pas très bien compris à quoi ça servait.
Je crois qu'il a vu Tartuffe hier au théâtre. Bah, c'était un super Tartuffe.
Voilà, des réactions qu'on aurait presque pu écrire avant l'interview.
Une petite remarque.
Ah bah, avec
à
plaisir.
Quoi ça sert d'inviter des proches d'Emmanuel Macron ou des opposants d'Emmanuel Macron d'un président de la République après une interview? À quoi ça sert?
Vous remarquerez qu'ils ont tous un avis, là.
Mais ils sont tous c'est exactement ce qui va être dit.
Oui, et d'ailleurs, ils pourront se resservir des mêmes réactions à la prochaine interview d'Emmanuel Macron. Ce sera à peu près les mêmes mots pour mots. Après, on peut les garder en boîte et rediffuser.
Exactement. Comme chaque matin, vous vous moquez de nous.
Alors, ce matin, c'est Mathieu Rouault qui s'est fait plaisir, un petit moment d'insolence en vous répondant, Jean-Jacques, au sujet du sommeil.
Est-il vrai, Mathieu Rouault, que nous ne sommes pas toujours très polis quand nous dormons?
Non, putain, fais chier, tu m'emmerdes.
C'est
les mots qu'on dit le plus en dormant, visiblement. On dit beaucoup de choses, beaucoup d'insultes. Le mot putain est utilisé par les participants 800 fois plus la nuit qu'en journée. Et à l'inverse, les formules de politesse n'apparaissent que chez 12 dormeurs observés.
Des gens qui disent s'il vous plaît,
s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Merci.
Non, merci.
Après vous.
Merci.
Bah, il commence en vous insultant et vous finissez par merci.
Vous vous rendez compte. Mais c'était très sympa, entre 6h et 7h ce matin. Ne ratez pas RMC Découverte le matin. RMC Découverte qui s'arrête là, il est 8h25. Nous nous retrouverons demain, évidemment, à partir de 6h, toujours avec le même plaisir. Dans un instant, je serai avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Et ensuite, 9h-10h, nos bureaux de vote.
Balance ton porc, hashtag balance ton porc. Depuis la semaine dernière, avec l'affaire Weinstein à Hollywood, la parole se libère. Des milliers de femmes dénoncent des situations de harcèlement sur Twitter. À 9h30, débat avec la question de l'identité de ces harceleurs. Faut-il les dénoncer, les citer nommément? 32-16, rmc.fr pour intervenir. Bureau de vote que vous suivez évidemment sur le Facebook, Bourdin Direct, en live et vidéo, vous le savez, vous commentez nombreux et nombreuses. Pour commencer, premier débat après l'interview d'Emmanuel Macron hier soir sur TF1. L'avez-vous suivi? Qu'en avez-vous retenu? Premier débat ce matin, Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu, oui ou non, par SMS au 6-10-71?
RMC, 8h30, les infos, Sophie Paolini.
Bonjour à tous. En Espagne, Carlos Puigdemont propose ce matin à Mariano Rajoy un délai de 2 mois pour négocier l'indépendance. L'ultimatum de Madrid expire tout à l'heure à 10h. Le gouvernement espagnol somme le président séparatiste catalan de dire si sa déclaration la semaine dernière était une proclamation d'indépendance. Mariano Rajoy qui devrait s'exprimer dans un peu moins de 2 heures. Un style assumé et une détermination à poursuivre les réformes engagées. Premier grand oral d'Emmanuel Macron hier soir sur TF1. 1h15 durant lesquelles le président a répondu point par point aux critiques. Il promet des effets sur le chômage dans 1 an et demi, 2 ans. Sur la PMA, le président souhaite un débat apaisé l'an prochain pour étendre la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Et puis le gouvernement va aussi demander aux acteurs du logement social d'un peu baisser les loyers. En face, on va baisser d'autant les APL, dit-il. Les aides personnalisées au logement. Emmanuel Macron qui juge croquignolesque la situation actuelle. Une prestation qui a en tout cas convaincu 54% des Français, selon notre sondage Flash RMC Atlantico Harris Interactive. En Seine-Saint-Denis, les enseignants d'un collège du Bourget exercent leur droit de retraite ce matin, très choqués par un accident survenu jeudi. 2 élèves ont été grièvement blessés quand le portail de l'établissement est tombé sur eux. Construit par Eiffage, ce collège Didier Dora avait été inauguré il y a 2 ans. Une expertise a été diligentée pour connaître les causes de l'accident. Toujours pas de revendication 48 heures après l'attentat le pire de l'histoire de la Somalie. Selon un dernier bilan, 276 personnes sont mortes et plus de 300 blessées. L'attaque au camion piégé s'est produite samedi après-midi dans un quartier commercial très animé de la capitale, Mogadiscio. Enfin, Marseille perd sa place sur le podium de Ligue 1 en clôture de la 9e journée, désormais 4e du classement après son match nul, 3 partout hier soir face à Strasbourg. Dans les autres rencontres, Nice a été battu à Montpellier 2-0, Bordeaux et Nantes ont fait match nul 1 partout. Il est 8h32, dans un instant, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est l'invité de Jean-Jacques Bourdin.
RMC Bourdin Direct, Jean-Jacques Bourdin.
Notre invité ce matin, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Avez-vous regardé le président de la République hier soir?
Oui, évidemment.
Oui, évidemment. Bon. Un discours ou une interview?
Une interview, c'était une interview, comme chacun a pu le voir, oui, bien sûr.
Oui. Alors, quelles informations concrètes avez-vous retenues?
Bien, d'abord, j'ai apprécié qu'il commence par donner comme illustration de la lutte pour plus d'égalité, ce que nous avons fait dans l'éducation nationale.
Oui.
Le dédoublement des classes de cours préparatoires par deux en réseau d'éducation prioritaire, c'est typiquement une attaque contre les inégalités sociales à la racine. Et il a donné comme illustration des choses très concrètes alors, qu'on a été capable de faire en 3 mois.
Bon, alors justement... Soyons dans le concret, parce que c'est ce qui nous occupe et c'est ce qui préoccupe les auditeurs et les téléspectateurs. Combien de classes de CP dédoublées, finalement?
Eh bien, 2500, ce qui fait 5000 en tout.
Comme prévu.
Oui, tout à fait.
2500. L'an prochain, CE1.
L'an prochain, CE1 en réseau d'éducation prioritaire renforcé, oui. Et les CP en réseau d'éducation prioritaire. Parce que vous savez, il y a les deux catégories, REP et REP+.
Exact.
Donc cette année, on a fait REP+. L'année prochaine, on fait les CP de REP et on fait les CE1 de REP+, c'est-à-dire la continuité.
Il va falloir embaucher pour ça?
Oui, bien sûr, oui.
Vous allez embaucher combien?
Ah ben on a fait nos calculs, c'est entre 3500 et 4000 enseignants nouveaux qui seront dans le premier degré l'an prochain.
À la rentrée prochaine.
À la rentrée prochaine.
3500, 4000 enseignants nouveaux.
Entre 3500 et 4000.
Bien, 23000 contrats aidés supprimés entre septembre et décembre dans l'éducation nationale, vous confirmez ce chiffre?
Pas tout
syndical,
à fait, parce que certains, oui, mais certaines de ces suppressions dans l'éducation nationale sont des reconversions, c'est-à-dire que certains de ces contrats ont été transformés en ce qu'on appelle des AESH, c'est-à-dire des contrats à durée déterminée, plus robustes que des contrats aidés, pour l'accueil des élèves en situation de handicap. C'est comme ça qu'on en a créé 8000 à cette rentrée, donc qui s'ajoutent déjà à 50000 contrats aidés, qui représentent le même chiffre que l'année dernière pour l'accueil des élèves en situation de handicap. Donc ça fait 50000 plus 22000 plus 8000. Ça fait 80 000 personnes pour accueillir les élèves en situation de handicap. C'est bien la démonstration que sur un sujet défini comme une priorité, l'accueil des élèves handicapés, on est capable de mettre les moyens, tout en faisant cette évolution de politique, c'est-à-dire substituer progressivement, ce qu'on fera aussi dans le futur, les contrats aidés, et bien les faire remplacer par des contrats plus robustes.
Oui, je vais revenir sur les contrats aidés, mais est-ce que des enfants handicapés, Jean-Michel Blanquer, sont aujourd'hui sans classe et sans enseignant?
Normalement, non. En tout cas, notre
normalement,
objectif...
Normalement, non.
Normalement, non.
Réellement
il peut, à ce stade de l'année, il peut rester encore des exceptions, il faut être honnête. Nous avons vocation à les régler au cas par cas. Nous travaillons à cela tous les jours avec la ministre en charge du handicap, Sophie Cluzel. En général, quand nous avons un problème encore aujourd'hui, c'est souvent un problème de recrutement. C'est pas que nous n'avons pas les moyens, nous avons des supports.
Oui.
Par exemple, au moment où je vous parle, je vous ai dit qu'il y avait 50 000 contrats aidés. Tous ne sont pas pourvus parce que, tout simplement, parfois, on n'a pas le candidat au bon endroit, de la bonne façon. Et je le dis d'ailleurs pour ceux qui chercheraient encore des postes de contrats aidés, ça existe encore. Et donc, parfois, on a encore des problèmes aujourd'hui. Ils ont vocation à être réglés au cas par cas, mais en tout cas, on a beaucoup moins de cas non résolus cette année que l'année dernière à la même époque. Et donc, nous sommes en train de progresser. Et notre but, c'est évidemment que chaque élève en situation de handicap ait une solution.
Les évaluations nationales en CP ont eu lieu en septembre. Vous avez les résultats?
Non, non, non. D'abord,
encore
nous n'avons pas vocation à avoir des résultats nationaux, d'ailleurs.
Nationaux.
C'est des résultats à l'échelle locale. Et donc, c'est...
Qui sont donnés aux parents et aux élèves.
Tout à fait. Et qui permettent aussi, à l'échelle de l'école, d'avoir une idée de où en sont les enfants.
Et vous avez une idée?
Non, à ce stade, non, mais j'ai une petite idée, si vous préférez.
Oui.
C'est-à-dire, je pense que nous avons une situation justement d'inégalité entre les enfants, parce qu'ils n'arrivent pas avec le même niveau de vocabulaire en cours préparatoire. C'est justement sur cela que nous travaillons en ce moment. Et c'est à ça que sert l'évaluation. C'est que quand on constate que certains prérequis pour des enfants ne sont pas là, eh bien, on travaille d'autant plus avec eux au cours de ce premier trimestre pour rattraper ce qui peut l'être et les faire rentrer de manière réussie dans les apprentissages.
Bien. Réforme du brevet.
La réforme du brevet.
Fin de troisième.
Oui.
800 points. Le brevet sera noté sur 800 points, c'est cela?
Oui.
C'est cela.
Et donc, la nouveauté, c'est que c'est 50-50, si vous voulez. C'est-à-dire que nous avons à la fois simplifié, rendu, je pense, plus rigoureuses les choses, au sens où c'est 50% contrôle continu, 50% ce qu'on appelle validation du socle.
Oui.
Et puis 50% examen final.
Examen final,
donc
oui.
C'est clair. Et puis les quatre matières fondamentales, français, mathématiques, histoire, géographie et sciences. Donc c'est clair et net, je pense. Et en même temps, ça nous permet aussi de mettre à l'honneur certaines choses. Par exemple, il y a un retour de l'histoire des arts à l'oral. On passe un oral au brevet. C'est le premier oral que l'on passe de sa vie devant deux professeurs.
Donc on va passer un oral au brevet.
C'est déjà le cas, mais simplement on a mis l'histoire des arts.
Oui, l'histoire des arts. Ouais. Bon, à partir de
juin prochain. Oui,
de juin prochain. Hein.
Tout à fait.
Bon, c'est une préparation au bac, quoi. Le brevet, si je comprends bien.
Le brevet a son importance. Vous savez, parfois il y a des personnes pour dire avec des arguments que
le brevet voulait même le supprimer.
Tout à fait. On parle parfois de supprimer le brevet. Je ne suis pas pour supprimer le brevet, de même que je ne suis pas pour supprimer le baccalauréat. Je pense qu'on a besoin, à certains moments, de quelque chose qui serve de point de repère et qui indique quelque chose sur ce qu'il faut faire en amont. Hein. Prenez par exemple la grammaire. La grammaire, c'est très important. Parfois, il y a eu des discours dans le passé pour dire que la grammaire, ça n'était pas important. La grammaire, c'est très important. Les enfants, dès l'école primaire, doivent faire de la grammaire de phrase, c'est-à-dire qu'on appelle de l'analyse logique, sujet, verbe, complément. Eh bien, il est important qu'au brevet, dans l'épreuve de français, il y ait une analyse logique de la phrase.
Ça veut dire
ça envoie un signal en amont. C'est pas que le brevet lui-même.
50% de contrôle continu, 50% de matière passée à l'examen, à la fin de l'année.
Oui.
Même chose pour le bac, bientôt.
Alors, non, le baccalauréat,
pas tout à fait,
mais c'est le même esprit, on va
c'est
dire.
C'est le même esprit, voilà.
C'est pas la même chose. Pour le baccalauréat, une concertation.
Matière principale, 4 à 5, l'examen à la fin de l'année, et le reste en contrôle continu.
C'est l'engagement présidentiel est bien celui-ci. Simplement, nous allons maintenant commencer une concertation dans quelques temps, qui nous permettra au début 2018 de définir précisément ce que sera
début
ce futur
2018.
Pour un baccalauréat 2021.
2021, la nouvelle formule du bac. Comment bien choisir sa filière quand on est au collège ou au lycée? Allez-vous faire?
C'est un des sujets les plus essentiels de la société française. Et nous devons énormément progresser sur cette question. Dès la fin du collège, on doit avoir une bien meilleure information que ça n'est le cas aujourd'hui. Nous avons commencé à y travailler depuis que nous sommes arrivés, depuis que ce gouvernement existe. Ça va se traduire dès cette année pour les élèves de terminale par des éléments nouveaux, notamment plus de conseils au cours de l'année 2017-2018. Et puis à plus long terme, nous allons développer de plus grandes, meilleures informations pour nos élèves au collège comme au lycée, notamment pour qu'ils connaissent mieux les filières dans lesquelles ils veulent aller, les taux de réussite, les emplois auxquels cela mène, qu'ils connaissent mieux les entreprises, bref, qu'il y ait une meilleure...
Ils seront guidés, en quelque sorte.
Ils seront mieux guidés, tout à fait.
Ils seront mieux guidés. Et on leur dira même, il n'est pas question que vous puissiez vous inscrire dans telle ou telle filière à l'université.
On pourra leur dire plutôt, vous savez, avec le profil que vous avez là, vous avez 5% de chances de réussite, donc on vous conseille d'aller plutôt ailleurs, dans tel endroit où vous avez 80% de chances de réussite, vu votre
profil. Donc une forme de sélection à l'entrée à l'université.
Une forme de vraie orientation information.
Pourquoi avoir peur de ce mot?
Non, parce que ce qui est très, très important aujourd'hui, d'ailleurs le président l'a dit hier, c'est que selon votre famille, vous êtes dans une situation d'information complètement différente aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, devant les défauts de notre système d'orientation, les familles aisées peuvent compenser cela de différentes manières, et ne serait-ce que parce qu'elles connaissent les choses. Donc notre préoccupation principale, c'est pas de fermer des portes, c'est d'ouvrir des portes.
Bah alors tous les élèves seront informés.
Ben, je vais vous donner un exemple.
Sur le même niveau.
Je vous donne un exemple.
Oui, allez-y.
Il y a trois domaines qui sont aujourd'hui particulièrement saturés et qui ont été constitutifs de l'essentiel de ce qu'on appelait la crise APB au mois de juillet dont nous avons hérité. C'est les STAPS, donc l'éducation physique et sportive, la psychologie, le droit en particulier. Si vous prenez le premier exemple, le STAPS, vous avez beaucoup d'élèves en France aujourd'hui.
C'est l'éducation physique et sportive, hein,
voilà,
le STAPS.
Voilà, le sport.
Le sport.
Vous avez beaucoup d'élèves aujourd'hui, et ils ont raison, qui sont passionnés par le sport et qui ont envie d'en faire leur métier. Et donc, ils vont tout naturellement en STAPS. Mais beaucoup vont échouer parce que c'est très exigeant sur certaines disciplines dans lesquelles les mêmes élèves ne sont pas forcément les plus doués. Nous allons créer dans le futur une filière métier du sport, avec un bac pro métier du sport, un BTS métier du sport, et cela permettra aux élèves en question d'avoir une formation plus rapidement, plus concrète, et où ils n'échoueront pas, où ils réussiront, et où ils auront un travail à la suite.
Veulent quand même
plutôt
aller...
que d'aller tous en STAPS et d'avoir
mais ceux qui
une bonne
quand
partie
même
qui
aller en STAPS.
Eh bien, il y en aura moins qui auront en STAPS parce que grâce au conseil.
Vous leur direz non.
il y a, eh bien, en tout cas, ce qui est certain, c'est que la formule à laquelle on arrivera.
Non, d'ailleurs.
Là, vous poserez la question à ma collègue de l'enseignement supérieur, Frédéric Guidel. Mais ce qui est certain, c'est que nous n'aurons plus un système de sélection absurde, qui est celui du tirage au sort. Le tirage au sort est une sélection absurde. Demain, il faut avoir une orientation qui permette une bonne répartition et ainsi d'avoir, par exemple, dans l'exemple que je vous donne, quelqu'un qui a son bac pro sport, qui a toutes les chances de réussir dans un BTS métier du sport,
non, mais je comprends.
Plutôt que d'aller en stage.
On l'oriente, on le conseille, je comprends, et tout le monde sera au même niveau. Je comprends très bien. Bon, enfin, si l'élève persiste à vouloir aller en STAPS, s'il n'y a pas...
On responsabilisera les acteurs. Mais ça, c'est...
Ah bon.
La réponse à cette question viendra en son heure quand la concertation sera terminée.
Ça veut dire quoi, responsabiliser?
Chacun doit être responsable. Si vous, moi, si on me dit que j'ai 5... Moi, si on me dit vous avez 5% de chances de réussir dans tel endroit et 95% de réussir dans tel autre, eh bien, je vais plutôt dans le deuxième. Voilà.
La Seine-Saint-Denis, deux lycéens de Gagny ont été interpellés vendredi. L'un a giflé une enseignante. L'autre a filmé la scène, l'agression. Vous avez rencontré l'enseignante qui est évidemment en arrêt de travail. J'imagine terriblement traumatisée par ce qui s'est passé.
Je lui ai parlé au téléphone, c'est une femme très digne et évidemment, elle a eu la réaction la plus remarquable qui soit.
Et des élèves c'est ont évidemment... même ri dans la classe.
Oui, j'ai vu tout cela et j'en ai été profondément scandalisé. C'est exactement ce qui ne doit plus se passer, Jean-Jacques Bourdin. Vous savez, je dis toujours lire, écrire, compter et respecter autrui. Donc on est aujourd'hui au cœur de l'enjeu de respecter autrui. Donc, et on a évidemment pris toutes les mesures nécessaires.
Ces
deux jeunes, ils passent en conseil de discipline, ça va de soi. Ils ont déjà été exclus temporairement. Donc ils passent en conseil de discipline. J'y ai veillé évidemment personnellement. Deuxièmement, ils ont des poursuites pénales contre eux. Autrement dit, le maximum est en train d'avoir lieu à leur sujet. La force doit être du côté du droit. Tout le monde doit comprendre cela. Et on doit le comprendre évidemment dès l'enseignement secondaire, quand des faits comme ceci arrivent. Donc, le message, il est très clair. Nous avons réagi, évidemment, dès que ce fait m'a été signalé. Et maintenant, les sanctions vont avoir lieu. Les discours qu'il faut tenir seront tenus avec beaucoup de sérénité. Il ne s'agit pas de faire des rodomontades. Mais c'est très clair, quand des faits aussi graves ont lieu, il doit y avoir une immense solidarité vis-à-vis des victimes et il doit y avoir de l'intransigeance vis-à-vis de ceux qui sont auteurs de cela.
Le harcèlement scolaire, Sandrine, l'une de nos auditrices, vous interroge. Est-ce que vous allez changer la loi sur le harcèlement scolaire, peut-être durcir, renvoyer certains élèves de leurs établissements lorsqu'il y a harcèlement?
C'est un sujet cousin du sujet précédent.
Oui, exactement.
C'est pour ça on est toujours dans la question du respect. Vous avez dit toujours, il faut une école de la confiance qui aide à ce que nous ayons une société de la confiance. Et donc, ça commence d'abord par se respecter les uns les autres. C'est tout simple, mais il faut le dire, le marteler, et que ce soit dans l'esprit de tous nos élèves. Et le respect d'autrui, en effet, il est abîmé quand il y a du harcèlement. Mais ça peut être du tout petit harcèlement. Quand on est 4 ou 5 à se moquer d'un élève seul, eh bien, c'est du harcèlement. Et de nouveau, la force doit être du côté du droit. Et donc, les enjeux de ce côté-là, c'est des enjeux notamment de sensibilisation de tous les adultes qui travaillent en établissement pour être extrêmement vigilants sur chaque début de harcèlement, de façon à y mettre fin tout de suite et à faire honte à ceux qui harcèlent plutôt que ceux qui sont harcelés et honte. C'est un point majeur à mes yeux. Nous allons avoir le jeudi 9 novembre prochain la journée de lutte contre le harcèlement. Nous franchirons un cran supplémentaire dans ce que nous ferons. Non, c'est une question de pratique. C'est extrêmement concret. Il y a des enjeux de formation derrière ça, des enjeux de sensibilisation. C'est des questions de vie quotidienne dans les établissements et croyez-moi, ça va être une grande priorité.
Bien, autre sujet, les vacances. Bientôt les vacances de la Toussaint, trop longues, vous l'avez dit vous-même, trop longues.
Oui,
vous l'avez dit ici.
Oui, c'est ça hein, ce que j'allais vous dire.
C'est même un facteur de décrochage, c'est ce que vous avez dit, on est bien d'accord. Elles sont vraiment trop longues, ces vacances.
Oui, mais c'est un sujet sur lequel je ne m'autorise pas un point de vue juste personnel, c'est un sujet qui nécessite de la réflexion collective. Donc nous avons
Vous ne revenez pas sur ce que vous avez dit.
Si vous voulez mon point de vue personnel, je l'ai exprimé ici, évidemment, je le réitère. Oui. Simplement, c'est pas parce que.
Vous avez dit même, c'est un sujet que j'ouvrirai de manière précise, plus large, dans les deux mois qui viennent.
Absolument. C'est tout à fait
bien.
Absolument. Merci de me le rappeler.
Oui.
Et bien, c'est pourquoi nous allons ouvrir cette concertation à laquelle je faisais référence, qui est beaucoup plus large.
Oui.
qui sera sur ce qu'on appelle le temps et l'espace de l'enfant et de l'adolescent au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'il va aborder tous ces sujets qui, d'une certaine façon, entourent l'école.
Quand,
le comment, temps de sommeil, les ouais, vacances, les rythmes, le rapport aux écrans, tous ces sujets-là. Donc, c'est à partir du mois prochain, au mois de novembre, nous ferons ça avec le Conseil économique et social et environnemental. Nous associerons tout le monde associatif, le monde des collectivités locales, syndicales, tous ceux qui, dans la société française, ont à s'exprimer sur ces questions. Et ça durera plusieurs mois, parce que c'est des sujets très profonds, qu'on peut appeler systémiques, dans le sens où tous ces sujets sont interdépendants.
Donc, concertation, réflexion, qui va durer plusieurs mois.
Qui durera plusieurs mois, parce que c'est un sujet profond, pour lequel il n'y a pas de vraie urgence, mais pour lequel il y a nécessité d'avoir...
Ensuite, réorganisation de l'année scolaire, du rythme de l'enfant.
Ça pourrait être une conséquence, ça je ne veux pas...
Peut-être un jour un texte qui change la loi, qui change le rythme.
Oui, de nouveau d'ailleurs sur cette question, ça ne relève pas nécessairement de la loi, non. Mais en tout cas, on doit avoir une réflexion en effet sur notre manière de répartir notre temps.
Vous changerez le rythme scolaire de l'enfant.
Il y a 60 millions de points de vue sur ce sujet dans la société française, et donc il faut être très attentif. Des grands équilibres sont liés à ça, il faut être respectueux d'ailleurs de tous les points de vue sur cette question, parce qu'il y a des arguments assez bons dans plusieurs directions. Néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'on doit avoir une réflexion approfondie, appuyée d'ailleurs sur des données un peu scientifiques, sur le temps de nos enfants et de nos adolescents. Le temps change, notre manière d'utiliser notre temps évolue, la révolution numérique a un impact sur la gestion de notre temps, par exemple. Tout ceci doit être pensé, regardé, et on ne doit pas prendre des décisions au doigt mouillé, on doit prendre des décisions après très mûre réflexion sur un tel sujet. Il y a des sujets sur lesquels il faut être très rapide, tout de suite, très concrètement. Il y en a d'autres qui nécessitent un peu plus de durée.
Il y a un sujet sur lequel vous devez être rapide, c'est le salaire des enseignants. Parce qu'ils se plaignent, et à juste raison, parce qu'ils sont mal payés, et en plus ils vont avoir la CSG à payer. Qui leur sera compensé
C'est les sujets que mon collègue Gérald Darmatin traite en ce moment même.
Oui, d'accord.
Mais ça leur sera compensé. Cela dit, j'entends toujours
Juste compensé, quoi.
Oui, c'est compensé.
Ils ne gagneront pas plus.
Alors, ça dépend de quoi on parle. C'est en pouvoir d'achat, quand on regarde ce qui se passe en termes de progression du pouvoir d'achat des fonctionnaires en général, ce pouvoir d'achat quand même augmente tel que nous l'avons calculé.
Les enseignants, là.
Oui, mais à l'intérieur des
les anciens,
c'est la moitié.
Le pouvoir d'achat progresse.
C'est la moitié des fonctionnaires de l'État. Donc, le pouvoir d'achat.
Certains qui soient satisfaits d'entendre cela.
Non, mais parce que vous m'avez pas laissé développer la raison.
Allez-y.
En réalité, bien sûr qu'il faut qu'on augmente le salaire des professeurs quand on le pourra. C'est une perspective d'avenir que l'on doit dresser de façon pluriannuelle. Il y a 850 000 professeurs en France. Donc ça n'est pas un sujet facile sur le plan budgétaire, chacun peut comprendre cela. En revanche, il est normal de faire un diagnostic clair. Aujourd'hui, c'est vrai par exemple dans le premier degré, les professeurs des écoles ne sont pas aussi bien payés qu'ils le devraient. Nous devons travailler sur cette question. Encore faut-il en avoir les moyens, et nous avons trouvé la situation budgétaire que nous avons, donc nous ne pouvons pas faire de miracle à court terme. Et puis nous devons travailler sur la façon dont ça peut se passer. Je vous donne un exemple. Dès l'année prochaine, au mois de septembre prochain, nous commencerons à mettre en place la mesure permettant de donner une prime supplémentaire à ceux qui vont en réseau d'éducation prioritaire.
Combien ?
Le point de repère, c'est 3 000 euros, mais je vais commencer à rentrer en discussion avec les syndicats sur les modalités exactes de cette mesure.
Sur l'année, pour aller travailler, évidemment, pas par mois. 3 000 euros sur l'année pour aller travailler dans ces zones.
C'est ce qui est une très belle somme et qui, évidemment, améliorera le pouvoir d'achat des personnes concernées. Mais vous voyez, c'est relié aussi à un enjeu qualitatif. Je pense que le sujet n'est pas seulement d'augmenter en argent les choses, c'est aussi d'arriver à ouvrir les carrières des enseignants, à augmenter leur prestige dans notre système. Leur offrir aussi des perspectives de carrière. Ils en ont aujourd'hui, mais on peut faire plus et mieux. Il y a tout le sujet des secondes carrières aussi. Tous ces enjeux de responsabilisation et de prestige des enseignants sont au cœur de mon sujet. Je me considère comme un ministre des professeurs.
Oui.
Mon message à la société française, c'est respecter les professeurs. Les professeurs, c'est très important, ils doivent être au cœur de notre société si on veut que notre société fonctionne bien. Et il y aura ensuite un cercle vertueux du respect si on respecte les professeurs. Et donc c'est ce que je fais en premier en tant que ministre, je les respecte et j'ai évidemment ce type d'idée sur leur pouvoir d'achat dans le futur. Mais ça va nécessiter du temps, du travail, mais j'y suis tout à fait prêt avec eux.
Dernière question, l'écriture inclusive, pas dans les manuels scolaires?
Je pense que ça n'est pas une bonne idée. Vous savez, là aussi, je dis lire, écrire, compter. On doit revenir aux fondamentaux sur le vocabulaire et la grammaire. Arriver à ce que les enfants aient une vision claire de la construction d'une phrase. Je trouve que ça ajoute une complexité qui n'est pas nécessaire. Je me considère comme féministe. Il y a des combats que je suis tout à fait en train de mener et prêt à mener en première ligne sur l'égalité homme-femme, parce qu'il y a beaucoup à faire. Je ne suis pas certain que ça passe par créer de la confusion sur le langage, et même ça crée des polémiques inutiles, et ça abîme la cause qui est bonne. La cause, elle est bonne, c'est celle de l'égalité homme-femme, bien entendu. Mais je ne pense pas que ce soit le juste combat de mettre ça sur une façon finalement d'abîmer notre langue.
Merci Jean-Michel Blanquer. Merci d'être venu nous voir. Il est 8h55, RMC BFM TV.